France Inter, il est midi 4 et c'est Questions politiques avec Ali Badou.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. L'école de la République est-elle en danger? Est-elle menacée? Comment faire bloc, pour reprendre les mots du président de la République? Une émission spéciale aujourd'hui, évidemment, après l'attentat terroriste islamiste de vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Un événement qui nous laisse tous sous le choc. Samuel Paty, vous le savez, cet enseignant d'histoire-géographie a été assassiné, décapité par un terroriste islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans un cours consacré à la liberté d'expression. Nous sommes en direct avec le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, pour intervenir, pour réagir. L'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Ali Badou.
Merci d'être au micro de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Bienvenue, beaucoup de questions à vous poser. Votre parole est très attendue dans la communauté éducative évidemment, mais bien au-delà. L'équipe de questions politiques avec moi ce dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Philippe Bernard du journal Le Monde. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Et Karine Becker de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Jean-Michel Blanquer, vous serez en fin de journée à l'Élysée pour un conseil de défense restreint. Et avant ça, vous irez place de la République à Paris à 15h pour le rassemblement en hommage à Samuel Paty. Un mot d'abord, avant d'entrer dans les questions, les analyses, les débats que soulève cet événement. Qu'est-ce que vous ressentez? Nous sommes tous sous le coup de l'émotion. Les mots peuvent nous manquer. On ne sait pas encore tout. Mais quel sentiment domine chez vous? Est-ce que c'est la sidération, l'affliction, l'inquiétude? La colère?
Non, c'est la peine et la volonté d'agir. La peine parce que je pense à lui, tout simplement. Mais là, surtout la volonté d'agir. Parce que ce qui est désiré par les terroristes, c'est de nous faire peur, c'est de nous abattre, de nous plonger dans le désarroi. Et on a le droit d'être triste, on a le droit aussi d'éprouver individuellement de la peur. Mais collectivement, nous ne devons pas avoir peur, nous devons agir.
Et vous allez
et donc,
nous dire comment
le désarroi, la peur n'ont pas à être entretenus. Nous devons au contraire réagir collectivement. Nous devons avoir l'unité du monde adulte. Et cette unité est fondamentale. Et donc je vais travailler à cela. Et je n'ai aucune peur. J'ai beaucoup de tristesse.
Aucune peur.
Non, parce que je pense que nous devons montrer que la démocratie est la plus forte. Ces actes sont le fait d'individus minoritaires, évidemment, de personnes qui veulent obtenir un résultat. Ce résultat qu'ils veulent, c'est la terreur. Et donc, si nous acceptons d'être dans la terreur, eh bien, d'une certaine façon, ils obtiennent en partie leur objectif. Donc, nous devons être soudés, nous devons être unis, nous devons être actifs, et nous devons évidemment l'emporter, c'est-à-dire la démocratie et la République doivent l'emporter.
Et on y reviendra parce que c'est sidérant de se retrouver dans cette situation aujourd'hui où un professeur peut courir un risque mortel en faisant tout simplement son travail. Nathalie Saint-Cricq.
Jean-Michel Blanquer, vous venez de parler de la volonté d'agir. Dans une interview ce matin au JDD, Jean Castex n'exclut pas un volet supplémentaire à la loi contre le séparatisme. Est-ce que vous pourriez nous donner les deux ou trois axes de cette volonté d'agir? Où est-ce qu'on est confronté éternellement à aller se réunir à la République tous les six mois en disant qu'on est tous unis sans que rien ne change?
Alors cette volonté d'agir, elle est évidemment dans différentes directions. Il y a tous les domaines régaliens qui relèvent de questions parfois même internationales et qui passent par la loi ou pas seulement par la loi. En premier lieu, je ne voudrais pas laisser dire qu'il ne se passe rien. J'étais à la République aussi, malheureusement, il y a maintenant 5 ans pour Charlie. Là, je vais me retrouver à la République avec tant d'autres personnes et on pourrait avoir le sentiment que il y a une réitération et qu'il ne s'est rien passé. Ça n'est pas tout à fait exact. Ce qui est exact, c'est que nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas perdu non plus. Nous sommes dans une bataille. Elle est de nature nationale, mais aussi mondiale. Il faut en avoir conscience.
Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que cette bataille-là n'est pas perdue, Jean-Michel Blanquer ?
D'abord, je veux dire que nous agissons. Par exemple, sur les sujets de laïcité et de lutte contre le radicalisme islamiste, à l'éducation nationale, depuis 3 ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons créé ce Conseil des sages de la laïcité. J'ai été beaucoup critiqué parfois sur ces sujets. On voit bien que c'était nécessaire parce que ce Conseil des sages a donné des normes de référence à l'ensemble du système scolaire. Plus personne ne peut dire que les instructions dans l'éducation nationale seraient de mettre les problèmes sous le tapis ou de n'avoir pas de vagues. Je sais que parfois c'est ce qu'on peut encore ressentir. Et chaque fois qu'on le ressent, il faut le dire, parce que ça n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est des normes claires, et c'est ce que nous avons fait. Et puis c'est de l'action. C'est aussi ce que nous avons fait, puisque nous avons des équipes valeurs de la République qui interviennent sur le terrain. Elles sont intervenues dans le cas qui nous occupe.
Mais
on n'a pas empêché un meurtre. On ne pouvait pas prévoir ce meurtre. Mais intervention, il y a eu. Et donc action, il y a. Nous ne sommes pas inertes. Nous sommes ni naïfs, ni inertes par rapport à cette menace qui pèse sur... pas seulement l'école, mais sur la République en général et sur la démocratie.
Je voudrais juste une précision, parce que nos confrères du Point ont sorti une information, et c'est en train de circuler très sérieusement sur Twitter, en disant qu'il y avait eu une inspection d'un référent laïcité, soit qui est allé voir ce fameux prof, soit qui devait aller le voir, pour le rappeler à l'ordre sur des règles de neutralité et laïcité. Est-ce que vous avez connaissance de ce référent qui serait allé manifestement remettre les choses en ordre dans l'établissement, et notamment faire un signalement contre Monsieur Paty? Est-ce que c'est vrai, cette information?
Cette information est fausse. Et c'est cela qui est très grave. Parce que ce qui est vrai, c'est que oui, les référents sont venus. Ça, oui, et tant mieux, d'ailleurs.
Ils sont venus pour lui dire quoi? Pour le sermonner ou pour le soutenir?
Il y a eu soutien complet du professeur. Pour que je puisse vous répondre, il faut que vous me laissiez quelques instants pour développer. Je pense que c'est très important de le dire. D'abord, il y a les faits. Et bien sûr, les faits seront encore plus précisés par les enquêtes, et je ne vais pas aller sur le terrain qui est judiciaire. Mais sur le terrain de ce qui s'est passé à l'école avant cet assassinat terrible. Il y a d'abord, effectivement, le professeur qui fait cours sur la liberté d'expression et qui a bien raison de le faire et qui est totalement soutenu par l'institution en le faisant, comme ça s'est passé après. Il est totalement soutenu sur ce point. Ensuite, il y a le fait qu'il dit si certains sont choqués, qu'ils ferment les yeux ou qu'ils sortent de la classe. Ce point-là a suscité un malentendu parce que ça a pu être vécu comme une discrimination. Le professeur a senti qu'il y avait ce malentendu. Comme deux parents d'élèves ont protesté, alors la principale, qui a été impeccable de bout en bout, voyant qu'il y avait un incident de cette nature, a justement appelé les équipes Valeurs de la République. Ces équipes sont venues sur place et ont parlé avec le professeur et ensemble ils ont regardé le sujet. Le professeur a parlé avec les parents et l'incident était, pour ainsi dire, clos. C'était quelque chose de faible intensité en réalité, une sorte d'incident de faible intensité.
Mais vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous considérez effectivement qu'un enseignant peut dire vous regardez ou pas, vous sortez de la classe ou pas? C'est autorisé comme ça?
Ben à la limite, pardon, mais je peux répondre à ça, mais c'est pas le cœur de l'affaire, parce que si vous me laissez continuer, vous verrez à quel point ce sujet-là, en fait, est le moment d'intervention de cet inspecteur, mais finalement contribue à ce que le professeur lui-même soit, je crois, satisfait de la façon dont les choses se déroulent. Et ensuite.
Donc il n'a pas été rappelé à l'ordre.
Passé, ce que chacun doit bien comprendre, c'est que les personnes qui sont à l'origine de cet assassinat, et je parle au pluriel, les personnes, se sont greffés sur cette affaire. C'est-à-dire que la jeune fille dont le père a ensuite créé tout ce scandale n'était pas dans le cours du professeur en question. Donc ce que l'on voit, c'est que l'on a des structures extérieures à l'école qui cherchent à créer un scandale, qui cherchent à créer de la violence. Et
qui cherchent à exercer une pression sur l'école.
Qui cherchent à exercer une pression sur l'école, ce qu'ils ont fait. Puisque donc une élève a été exclue 2 jours pour des faits qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Le père de cette élève est venu dans l'établissement. Et il a dit qu'il a fait comme si elle avait été exclue à cause de cette affaire. Et il est venu avec une des personnes qui sont aujourd'hui interpellées par la police, très connue en tant que militant islamiste radical. Et cette personne a cherché, on le voit bien, à exploiter l'affaire. Et donc ce père est venu avec cette personne, a fait pression sur la principale. Le professeur a bien entendu été soutenu. On a ensuite cette vidéo. Vidéo faite par ce père d'élève qui cherche à créer de la violence autour de cette histoire. Et ce père de l'élève qui avait été exclu, eh bien, ce qu'il cherche à faire, c'est évidemment à cibler ce professeur. Et il utilise le mot sévir. Il faut sévir contre ce professeur. Et le plus terrible, c'est que les articles dont vous parlez maintenant, qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils se basent sur la vidéo du père pour utiliser le verbe sévir.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une faille, monsieur le ministre?
C'est invraisemblable. Non, mais pardon, je termine juste. C'est un retournement incroyable. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr qu'il y a eu soutien de monsieur Paty. Pour en être pour être totalement clair, je vais demander à l'inspection générale de rétablir tout l'ensemble du déchaînement de l'enchaînement des faits, et puis bien entendu la justice de son côté.
Oui, c'était juste pour savoir
mais
si
sur l'aspect qui n'a pas de rapport avec la dimension pénale, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé à l'école. J'ai parlé avec la principale, j'ai parlé avec la rectrice, j'ai vu aussi le travail des inspecteurs. On a eu justement l'intervention de l'équipe Valeurs de la République. Après, à aucun moment il n'y a menace de mort, il y a diffamation, c'est sûr. Et donc, la principale a accompagné le professeur au commissariat pour porter plainte pour diffamation. Même pendant le week-end dernier, vous aviez l'inspecteur en charge de ça qui téléphonait au professeur pour le soutenir, pour parler avec lui de ce qu'il y avait à faire. Donc, si vous voulez, on a au contraire une intervention appropriée de cette équipe Valeurs de la République.
Donc, pour le soutenir, simplement, c'était juste le point que je soulevais.
Cette équipe a conduit à ce que plainte soit portée mardi dernier pour diffamation. Personne ne pouvait imaginer que ça allait ensuite déboucher sur cette horreur. Et évidemment, on ne peut que être terrifié par cela.
Autrement dit, le système éducation nationale n'est pas en cause, le professeur Samuel Paty a reçu le soutien de l'institution, vous n'avez absolument aucun doute. Est-ce que c'est un soutien qui est arrivé trop tard malgré tout ?
Non, il s'est déclenché dès que le problème a été mentionné. La principale l'a soutenu. Et puis ensuite, l'équipe Valeurs de la République est venue. Bien sûr, a posteriori, on peut toujours regretter telle ou telle chose. Et je ne dis pas que tout est parfait. Et encore une fois, on regardera exactement chaque point. Mais la volonté a été de le soutenir. Le soutien a été effectif. Et se matérialise par différents épisodes, comme le fait d'aller porter plainte avec lui au commissariat.
Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faille qui est révélée par cette tragédie ? C'est que ces conflits n'ont pas pour cadre exclusif l'établissement scolaire qui se développe désormais sur les réseaux sociaux. Est-ce que là, vous comptez agir sur ce plan-là ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que l'éducation nationale peut faire ?
Vous avez raison. Désormais, il n'y a plus seulement l'espace scolaire. Il y a le cyberespace scolaire. Et on voit ce problème sous bien des angles, puisque, par exemple, s'agissant du harcèlement, nous avons réussi ces deux dernières années à diminuer le harcèlement dans l'espace scolaire. Il reste malheureusement encore trop élevé, mais on a pris beaucoup de mesures volontaristes et on a des premiers résultats. Par contre, nous sommes encore assez inefficaces sur le cyberharcèlement qui, en quelque sorte, prend le relais du harcèlement. Et ce que je dis là sur le harcèlement vaut malheureusement pour la pression islamiste sur nos élèves. C'est-à-dire que là où on peut être relativement efficace en présence physique, les choses deviennent plus difficile avec le cyber, la cyberpression.
Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il appartient désormais aux chefs d'établissement, aux principaux de collège, en l'occurrence, de surveiller le cyberespace et de d'instruire les conflits pour cadre physique leur établissement au-delà de ces murs ?
Jean-Michel Blanquer.
Oui, je pense que il y a tout un travail collectif qui existe déjà en partie. Hein. Nous travaillons avec des plateformes pour arriver à cela, mais nous sommes encore, nous devons faire encore des progrès sur un tel sujet.
Oui.
Et si vous voulez, en plus, quand vous êtes chef d'établissement, vous avez déjà tellement de travail avec l'ensemble des choses qui se passent dans l'établissement que si en plus vous devez vous occuper de toutes les prolongations de ce que font les élèves sur les réseaux sociaux, et c'est que ça devient très difficile. Donc, ce qu'on peut imaginer est forcément collectif, relève de l'institution, en appui aux établissements, puis relève d'évolution du droit, puisqu'aujourd'hui les plateformes parfois sont en coopération avec nous, mais parfois pas, et sont encore, on le voit bien même dans cette affaire, pas encore suffisamment...
Et qu'est-ce qui concrètement peut changer, doit changer, pour que ça ne se reproduise plus ?
Je pense que le débat doit se réouvrir sur le sujet. Vous savez qu'il a eu lieu ces derniers temps autour d'une proposition de loi. On est bien sûr dans un état de droit et justement nous défendons la liberté d'expression. Donc on doit être très attentif à ce qu'on fait pour combattre certains excès. Mais il est, pour ma part par exemple, je pense que l'anonymat sur Internet est un fléau. Mmh. Mais c'est mon point de vue, ça mérite d'être discuté. Mais je pense que à l'occasion de la loi contre le séparatisme, ça me paraît... Mais c'est mon point de vue, ça se discute, mais je pense que ça doit rentrer dans le débat.
Karine Bécard.
Avant de parler plus globalement des solutions sur lesquelles j'imagine vous plancher, un mot de contexte quand même. Est-ce que, avec le procès de Charlie Hebdo, après le discours d'Emmanuel Macron sur les séparatismes, est-ce que vous aviez enregistré, repéré à l'Éducation nationale des faits, des incidents, des atteintes à la laïcité dans différents établissements ?
Jean-Michel Blanquer.
Alors, nous avons repéré des faits, mais il n'y avait pas de recrudescence. Autrement dit, on était dans ce rythme malheureusement normal de faits de ce type, les remontées que nous avons tous les jours.
Des centaines d'incidents.
935 l'année dernière,
pas des centaines tous les jours, heureusement. Mais enfin, plusieurs chaque jour dans toute la France. Nous n'avions pas noté une intensité spécifique, mais néanmoins, vous voyez, ce problème-là, il avait été noté, il était considéré comme important, mais parmi d'autres, non moins important dans le pays. C'est pour ça que c'est difficile de prévoir que ça peut partir vers un crime atroce comme celui-là.
On sait que cet attentat aura des conséquences ravageuses sur le corps enseignant, que beaucoup de professeurs se posent des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et une question qu'ils aimeraient sans doute vous poser à vous, leur ministre. Imaginez que je sois professeur de 3e, de 4e, que je doive donner des cours d'éducation morale et civique, les EMC, que dans un cours sur la liberté d'expression, je veux montrer des caricatures de Mahomet, les commenter avec mes élèves pour qu'ils apprennent qu'ils vivent dans un pays laïque, qu'ils vivent dans un pays qui a pour valeur fondamentale la liberté et notamment la liberté d'expression, qu'on peut se moquer de tout, y compris des religions. Je vous demande à vous, monsieur le ministre, est-ce que je peux faire ça ?
Oui, bien entendu, vous pouvez le faire.
Oui, bien entendu.
Oui, bien entendu. Vous avez utilisé le mot conséquences ravageuses. Vous avez dit, tout ceci va avoir des conséquences ravageuses sur les professeurs. Je veux aller contre ce mot, parce que je comprends que vous le prononciez.
Non, mais l'autocensure va être instinctive.
Oui, mais justement, c'est précisément parce que ce que vous dites peut exister, qu'il faut combattre. C'est-à-dire, sinon, c'est donner la victoire à ceux qui veulent abîmer la République. Donc, ne réagissons pas de cette façon. Au contraire, ce qui et mon devoir à moi en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est d'apporter évidemment mon soutien à tous les professeurs, prendre les mesures appropriées sur ce sujet, mais nous y arriverons si nous le faisons collectivement, donc ça suppose toujours de l'unité, c'est vrai, à l'échelle d'un établissement. Vous savez, parfois j'ai pu constater, dans la société française en général, pas spécifiquement dans l'Éducation nationale, mais de la naïveté, de la mollesse sur ces sujets. On m'a beaucoup critiqué pour le fait d'être justement non mou sur ces questions.
Désormais,
je crois qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de ces questions, il doit y avoir un sursaut de l'ensemble du pays, et je crois que les conditions de ce sursaut sont là pour que justement, on soit maintenant unanime, et j'en appelle aussi à la classe politique, parce que j'ai entendu des petites choses dissonantes ces derniers jours, donc je pense que le sujet est trop grave pour se permettre de vaines polémiques. On doit être unis pour dire que la liberté de conscience ne se négocie
donc,
pas, et elle commence à l'école.
Simple, oui, vous répondez oui quand un professeur de 3e ou 4e vous poserait la question comme ça.
Plus que jamais.
Mais alors comment lui dire de ne pas avoir peur, Jean-Michel Blanquer ?
Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous individuellement dans nos vies, de droit d'avoir peur, bien sûr. Et donc, on ne va pas nier ce fait. En revanche, nous avons...
Et il est impensable de protéger tous les professeurs.
Non, mais fort heureusement. D'abord, ne négligez pas le rôle des élèves en la matière. Si j'en appelle à l'unité des adultes, c'est pour transmettre des savoirs et des valeurs aux élèves. Désormais, ce que nous devons faire, y compris pendant ces 2 semaines de vacances que nous avons avant le 2 novembre, c'est que tout un discours soit tenu au monde des enfants et des adolescents sur la gravité de ce qui vient de se passer, sur le fait qu'on ne doit pas avoir de relativisme vis-à-vis de la liberté de conscience et vis-à-vis de la liberté d'expression, sur le fait que la laïcité est synonyme de liberté, que nous avons une chance folle de vivre en République et en démocratie, et que cette chance, elle ne doit pas entraîner de la passivité, mais qu'on doit la faire vivre, et la faire vivre d'abord par l'éducation, et que donc on ne négociera jamais cela. C'est donc, si toute l'institution est unie, nous y arriverons, et chaque fois qu'un professeur a un problème...
Mais vous n'empêcherez pas des gamins de se sentir offensés ?
Non,
mais de porter le discours qu'ils auront entendu à la maison,
oui,
ou ailleurs.
Oui, mais il peut se passer ce qui se passe aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans et demi, depuis qu'on a pris les premières mesures dans les établissements, c'est-à-dire quand ça arrive, on saisit le rectorat, des équipes viennent et on ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que, évidemment, les principes et les valeurs de la République
soient
ceux qui triomphent.
Mais ça, ce sont des mots, Jean-Michel Blanquer. Ça,
non,
ce sont des mots.
Ce sont des actes, ce sont des gens qui viennent dans l'établissement, qui parlent aux parents.
Mais concrètement, vous dites continuer à utiliser les caricatures de Mahomet ou mélanger-les à d'autres caricatures, parce qu'après tout, il n'y a pas que les caricatures
entendu.
De Mahomet.
Ah ben, ça va de soi. Alors, merci de l'expliciter, mais ça va de soi. C'est-à-dire, on ne va pas non plus s'obséder avec cela. Il faut, d'ailleurs, que je sache, le cours qu'il faisait, c'était, il y avait d'autres caricatures,
oui,
et c'est fait pour expliquer justement le second degré, le rire, le respect même quand on fait de l'humour, etc., etc. C'est justement cette subtilité qui s'enseigne et qui se transmet, et c'est l'importance du travail à faire. Bien entendu, il s'agit pas de faire des choses. C'est toujours vrai d'ailleurs en matière de pédagogie et d'éducation. Il s'agit pas de faire des choses brutales et sans explication. Il s'agit de faire de la pédagogie. Donc c'est bien sûr.
Nathalie Saint-Cricq.
Pardon.
Oh,
Est-ce que vous considérez que les professeurs ou les enseignants, de façon générale, sont suffisamment outillés? Vous leur avez remis une espèce de kit pour les guider sur la façon dont ils doivent enseigner la laïcité, la liberté d'expression, enfin, et un certain nombre de valeurs. Est-ce que d'abord, vous n'avez pas un problème quelquefois idéologique, c'est-à-dire que les professeurs qui peuvent considérer que c'est pas leur boulot, ou alors qu'ils ne sont pas d'accord avec vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la formation soit plus homogène et pour leur donner un coup de main, et pourquoi pas avoir un corps extérieur qui ferait ce travail-là, comme s'il y avait des cours de laïcité qui seraient faits par une espèce de groupe qui est spécifique? Est-ce que vous y avez pensé à ça?
Oui, bien sûr.
Jean-Michel Blanquer.
C'est ce que nous avons amorcé en partie. D'abord, au travers de la loi pour l'école de la confiance, on a installé une évolution de la formation initiale des professeurs, et désormais, le sujet du principe de laïcité, des valeurs de la République, fait partie des éléments de formation initiale des professeurs. Nous avons ensuite un volontarisme nouveau sur la formation continue des professeurs en la matière. Ce sujet des valeurs de la République et le sujet de la liberté de conscience tout particulièrement, l'esprit critique, que par exemple on va retrouver dans la semaine de la presse et des médias à l'école que nous préparons en ce moment pour le mois de mars comme chaque année. Tout ce sujet-là, il est au cœur de la mission de l'école, c'est pas un petit sujet marginal, c'est, je dirais, fondateur de l'école. Et moi, j'en appelle au fait que nos professeurs sont les hussards noirs du 21e siècle. Et que, bien entendu, il y a quelque chose de
comparable. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de l'expression?
Eh bien, ça veut dire que ça fait partie de la culture professionnelle que de défendre la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité.
Ça fait partie d'un état d'esprit aussi qu'on a ou qu'on n'a pas.
Oui, voilà, métier, exactement. Mais ce métier requiert cela. Ça se cultive, et le premier responsable de la diffusion de cela, c'est votre serviteur, et c'est ce que j'essaye de faire depuis 3 ans. Est-ce qu'on l'a fait de manière parfaite? Bien sûr que non. L'intention, elle est totale. Personne ne peut le nier. Il suffit de se reporter à la fois à ce que j'ai pu dire et faire depuis 3 ans sur le sujet. Mon intention est totale. Ensuite, la percolation dans le système, elle est plus ou moins réussie, je vous l'accorde volontiers. Mais elle a quand même beaucoup avancé ces derniers temps. On en a fait le bilan en Sorbonne mardi dernier, on avait réuni toutes ces équipes Valeurs de la République en Sorbonne. C'était intéressant de voir justement cette cohésion républicaine autour des grands enjeux. Valeurs de la République, et donc notamment la laïcité. Et vous avez des personnes, y compris Jean-Pierre Aubin, dont on parle beaucoup, puisqu'il est l'auteur de ce rapport en 2004 qui avait été peu relayé à l'époque. Désormais,
sur la pénétration des établissements scolaires par l'idéologie
donc
islamiste.
Ne restons pas dans une critique de l'institution qui pouvait valoir peut-être il y a encore quelques années, et au contraire, soyons unis autour de cette dynamique.
Mais alors, comment comprendre, monsieur le ministre, les propos de Christophe Prochasson? Il a été recteur, comme vous l'avez été, il a été conseiller éducation de François Hollande à l'Élysée, et dans une interview à Mediapart, il dit que lorsqu'il était à l'Élysée, justement, un attentat en milieu scolaire, c'était sa crainte tous les jours, et il juge que l'institution laisse trop souvent les professeurs, et je le cite, se démerder face à des situations qui peuvent être épouvantables. Que lui répondez-vous ?
Mais je pense que ce qu'il avait probablement raison d'observer ça de son temps, si je puis dire, et probablement que lorsqu'il était recteur et auprès du président, il a vu des choses comme ça. Je ne dis pas que ça a complètement disparu. Je dis que je suis tellement conscient de ce qu'il dit là qu'en arrivant, j'ai voulu que ça change. Bien sûr, je ne dis pas que j'y suis parfaitement parvenu, mais l'intention, elle est totale, et elle ne peut être pleinement réussie que si elle est totalement partagée. D'où l'importance de ce que nous disons là, et de l'action de chacun dans sa vie.
Mais vous savez que de nombreux professeurs se sentent seuls. Face à ce type de situation,
seui par
l'institution, mais aussi seuls parce qu'ils ne savent pas comment faire face à des phénomènes qui dépassent très largement le cadre scolaire.
Vous avez tout à fait raison. Vous pourriez dire ça d'ailleurs d'autres catégories de citoyens aujourd'hui, parce que on peut sentir la pression de l'islamisme militant. C'est vrai dans certains quartiers. Je l'ai dit, j'ai été aussi très critiqué sur ce point. Mais au fond, ce qui nuit à la démocratie ou à la République, c'est le fait que vous sentiez que vous n'avez pas le droit d'être vous-même, parce que certains veulent vous imposer leur religion. Vous disent, et les premières victimes de ça, on le sait très bien, c'est les musulmans républicains, ou les républicains de confession musulmane plutôt. C'est-à-dire qui d'un seul coup sentent la pression de certains qui veulent leur dire comment se comporter. C'est inacceptable. Et c'est ça la laïcité, c'est de permettre à chacun de vivre bien. Et donc, sur ce point, vous avez malheureusement raison. C'est-à-dire le fait qu'on se sente seul, ça existe. Le fait qu'on ait peur, ça existe. On doit combattre cela. Et ça peut être vrai d'ailleurs sur d'autres sujets que celui-là pour un professeur. Nous sommes trop dans un système cloisonné et où les professeurs ont le sentiment d'avoir une maison froide au-dessus d'eux. J'essaye de changer ça. Mmh. C'est le sens aussi du Grenelle des professeurs que l'on va faire. Et s'agissant de la laïcité, je veux juste dire que nous avons mis depuis depuis 2 ans et demi sur pied une adresse email dédiée pour que chaque professeur puisse signaler un problème de ce type et donc ne plus être seul, avoir une aide. Désormais, nous mettons aussi en place un numéro vert pour que ce soit encore plus direct.
C'est l'écoute nationale pour tous les personnels de l'éducation. Le numéro, c'est le 0805 500 005.
C'est bien ça.
Oui, mais si par exemple, le 2
Karine
novembre,
Becker,
la minute de silence que vous allez demander aux corps enseignants et aux élèves n'est pas respectée. Si dans certains établissements, certains élèves refusent cette minute de silence, qu'est-ce qui se passe?
Jean-Michel Blanquer. C'est vraiment un message que je veux passer, que je vais travailler avec les organisations syndicales. Parce que je veux dire aussi que hier matin, lorsque j'ai reçu les organisations syndicales, avec le Premier ministre qui m'avait rejoint au ministère de l'Éducation nationale, j'ai été vraiment très heureux de voir qu'il y avait une unanimité, un consensus des organisations syndicales sur à la fois évidemment la réaction qu'il fallait avoir, mais aussi le travail qu'il y avait à faire, notamment pour préparer la rentrée de ces vacances, et puis même ce qui se passera ensuite. Nous devons, donc je vais travailler avec eux, de façon à ce qu'il y ait un consensus national, et tout particulièrement au sein du milieu de l'ensemble des professeurs, de façon à ce que nous fassions les choses de façon appropriée. Mais l'objectif, il est clair, c'est qu'il n'y ait pas d'angle mort de la République, qu'il n'y ait pas un seul endroit où on ne fasse pas ce qu'il y a à faire, parce qu'on aurait peur de...
Pas d'angle mort de la République, mais est-ce qu'il existe des territoires perdus de la République ?
Il y a des territoires, certains ont dit récemment, des territoires conquis de la République. Bien sûr qu'il y a des groupes qui ont réussi, par leur pression, à conquérir certains lieux. Et bien sûr que ça n'est pas acceptable. Et bien sûr qu'on doit tout faire pour que ça change. Nous sommes les plus forts, les républicains, les démocrates, nous sommes les plus forts. Et de très loin, nous sommes beaucoup plus nombreux. Nous sommes la France, nous sommes l'institution. Donc il faut arrêter de se penser comme étant en train de perdre du terrain en permanence. On doit réagir, et notamment par l'école, par la transmission des valeurs justes.
Philippe Bernard, du journal Le Monde.
Les enseignants attendent des réponses et des explications claires. Il y a un texte que vous connaissez certainement par cœur, qui est la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, 1883, qui donne en quelque sorte le mode d'emploi de ce qu'on peut dire et faire devant des élèves. Et l'idée, c'est de ne pas choquer un seul père de famille. Est-ce que vous pensez que ce texte ancien, qui sera un petit peu son époque, les pères de famille, est-ce qu'il a encore une actualité aujourd'hui ?
Jean-Michel
Blanquer. En partie oui, en partie non. C'est-à-dire, je connais un certain nombre d'écrits de Jules Ferry, pas toujours par cœur, mais je connais assez bien sa pensée. Là, il y a évidemment des choses qui ont vieilli. Ceci en fait partie, hein, parce que la référence au père de famille est un petit peu déjà la moitié du sujet. Mais il y a aussi le fait que il est évident qu'on doit apprendre à l'élève un esprit critique et donc avoir du recul sur les choses. Et donc, on peut pas se mettre simplement sous le joug de la subjectivité d'un
père de famille
ou de quelqu'un.
La formule de Jules Ferry,
elle doit encore nous inspirer, mais elle n'est pas la totalité de notre inspiration.
Est-ce qu'il faut desserrer l'emprise
de
certains parents d'élèves sur certaines écoles?
Comment, pardon?
Est-ce qu'il faut desserrer l'emprise de certains parents sur l'enseignement, sur certaines écoles, certains établissements?
Alors, oui et non, ça dépend de ce qu'on met derrière cette phrase. C'est-à-dire, parce que dans un sens, il faut au contraire beaucoup plus de participation des parents d'élèves à l'école et aux valeurs de l'école. Et là aussi, j'en appelle aux parents qui nous écoutent, c'est la convergence des valeurs entre l'école et les parents qui est la clé de tout. Donc au contraire, on doit avoir des parents de plus en plus présents. En revanche, on ne doit pas avoir une vision consumériste de l'école, et puis, et encore moins, bien sûr, de pression violente sur l'école. Et donc, on doit respecter l'école, ce qui signifie respecter les chefs d'établissement, respecter le professeur, respecter l'ensemble des personnels qui travaillent pour l'école. Ça aussi, nous l'avons dit. J'ai même inscrit dans l'article 1 de la loi pour l'école de la confiance,
oui.
dont la première phrase a été beaucoup commentée pour être critiquée. La deuxième phrase dit ce que je viens de dire. Elle dit « le respect est dû à chaque professeur ». Et donc, c'est une base juridique pour sanctionner toute personne qui fait pression sur un professeur. Je serai toujours radical sur ce sujet. Et si on constate des exceptions sur le terrain, eh bien on les signale. C'est le sens du numéro que j'ai donné tout à l'heure.
Et que vous avez mis en place au
donc,
ministère.
La doctrine, elle est très claire. Elle est soutien total au professeur dans sa vie professionnelle, dans sa vie pédagogique.
Est-ce que dans les échanges que vous avez pu avoir depuis hier, enfin depuis l'attentat, est-ce qu'il y a également un volet sécuritaire? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit, vous, parce que vous, c'est l'école, mais il y a M. Darmanin, par exemple, ou le Premier ministre, en disant qu'il faut être plus strict sur les expulsions, sur ceux qui pratiquent, qui professent un islamisme radical. Certains sont étrangers, par exemple, il y en aurait 4000 qui sont fichés et qui, manifestement, pourraient très bien quitter le territoire. Est-ce que ça aussi, ça manque? Parce que là, on parle des professeurs, mais il y a aussi la personne. Alors, il était de nationalité française, il a été accueilli en France, il avait des papiers, mais
le statut de réfugié.
Le statut de réfugié dans des conditions totalement normales, mais est-ce que vous y a cette espèce de réflexion en se disant il faut aller plus loin?
Oui, bien sûr.
Et on a été angélique. Ce que vous pensez
Oui, je pense mais c'est ce qui est un peu normal. La démocratie souvent repose sur une forme d'ouverture d'esprit, et on doit toujours faire attention à ce que les ennemis de la liberté ne nous amènent pas à trop réduire les libertés. Donc c'est évidemment le dilemme dans lequel la démocratie est
l'ouverture en permanence. L'ouverture d'esprit au risque de la naïveté, pour reprendre
bien
le
sûr,
mot de Nathalie.
Bien sûr que c'est un risque et qu'il faut
pas. Et
donc
l'institution a pu pécher par naïveté.
Alors attendez, ça dépend de quoi on parle là. Mmh. Là, nous parlons de
l'institution
règles,
éducation
règles,
nationale.
Non, je ne parlais pas de l'éducation nationale, je parlais de
l'islamisme radical.
Non, elle aussi, c'est un peu certaines choses que j'ai dites avant, mais là je parle des règles relatives aux étrangers, aux réfugiés, c'est évidemment qui ne relève pas de mon domaine ministériel, mais sur lequel nous avons eu des discussions hier justement autour du Premier ministre, et nous en parlons avec le Président de la République. Il est évident qu'on doit être très attentif à ce qui se passe en la matière, et que le statut de réfugié ne doit pas
être... actif, c'est parce que
bien
vous
sûr, le statut de réfugié
vous appelez à l'Union nationale,
pas...
mais à droite, au Rassemblement national, on considère qu'il faut aller plus loin et qu'il faut enfin faire quelque chose.
Alors, en général, ceux qui disent qu'il faut enfin faire quelque chose, c'est pas le cas du Rassemblement national, mais souvent ont eu des responsabilités et n'ont pas fait le quelque chose qu'ils réclament, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, je pense qu'on doit rester serein et, si possible, unis. S'agissant du Rassemblement national, il y a le risque, évidemment, d'exploitation extrémiste de leur part. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être pratique, pragmatique, et de défendre tout simplement nos concitoyens face à la violence. Or, il est exact que le sujet de l'islamisme radical et du terrorisme a des ramifications internationales. Vous avez des puissances étrangères, vous avez des groupes étrangers, et certains individus sur le territoire sont reliés à ces groupes. Donc on doit évidemment prendre compte cela pour agir. Non, je me garderai bien. J'ai suffisamment à faire avec l'éducation nationale pour faire des propositions sur le champ de l'intérieur, mais bien sûr que nous en parlons, et que bien sûr que puisque le président de la République a tenu les propos qu'il a tenus. Et rappelons aussi les propos qu'il a tenus sur le sujet migratoire, donc qui est un sujet différent, mais articulé avec celui-là. Eh bien, il est évident que la loi pour lutter contre le séparatisme pourra être...
Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans cette loi?
C'est justement ce que vous verrez, qui va d'ailleurs être le fruit de débats, et qui sont des débats à attendre. Je pense qu'il faut que ces débats soient à la fois approfondis, sereins, respectueux, mais nous permettant d'avoir les bonnes mesures
dans
juridiques
en effet pour mieux se protéger. Il y a des choses sur les mosquées, il y a l'interdiction des cours à la maison, mais il n'y a rien sur l'éducation. Quel volet éducatif
sur l'éducation, vous aurez
pensez y ajouter.
Alors, sur l'éducation, encore une fois, d'abord, nous n'avons pas été inertes depuis 3 ans, y compris sur le plan législatif. Vous avez deux lois qui ont eu de l'importance pour la lutte contre l'islamisme radical. Premièrement, la loi Gatel, donc une proposition de loi que j'ai beaucoup soutenue et qui m'a permis d'avoir maintenant les outils juridiques pour empêcher des ouvertures d'écoles hors contrat. Et puis dans la loi pour l'école de la confiance, pour mieux contrôler l'instruction à domicile. Nous considérons qu'il faut faire encore un pas, et c'est ce que nous allons faire dans la loi contre le séparatisme, avec notamment donc l'instruction à domicile qui deviendra vraiment exceptionnel, uniquement sur des motifs de santé ou sur d'autres exceptions sur lesquelles nous travaillons.
Mais c'est pas du tout une réponse à ce qui vient de se passer.
Parce que vous m'interrogez
sur... Donc est-ce que vous comptez ajouter volet...
Alors, sur l'éducation, c'est parce que je répondais à votre question sur y a-t-il quelque chose sur l'éducation dans la loi contre le séparatisme. Par rapport aux faits que nous venons de vivre, nous voyons bien que c'est sur la voie publique. Bien sûr, c'est relié à la profession de l'enseignant, mais
ça se déroule en dehors de l'établissement scolaire.
Les causes profondes sont ailleurs que dans des règles de l'école. C'est évidemment que faisait ce jeune homme. Son parcours doit nous interroger aussi.
Mais concrètement, est-ce que vous pensez rajouter un volet protection des enseignants dans la loi sur le séparatisme?
S'il y a des idées nouvelles sur le sujet, j'y suis prêt. Je suis pas sûr qu'elle relève de la loi, parce que on prend d'ailleurs parfois des mesures de protection pour des enseignants. Mais s'il y avait des idées nouvelles, je suis évidemment très ouvert à cela.
Il y a une idée qui existe déjà, c'est la réserve citoyenne. Elle a été lancée en 2015. France Inter a un partenariat interclasse avec des personnes qui s'engagent aux côtés des enseignants, aux côtés des équipes éducatives pour transmettre les valeurs de la République. On a le sentiment que ce dispositif, qui était très ambitieux quand il a été lancé au printemps 2015, a été un peu, comment dire, mis de côté, négligé ces dernières années.
C'est vrai, c'était déjà le cas effectivement quand j'ai pris mes fonctions. J'ai observé ce que vous dites, vous avez assez raison, même s'il est resté vivant dans un certain nombre d'endroits. Ça dépendait un peu de chaque personne d'une certaine façon. Peut-être que parfois l'institution n'a pas offert suffisamment d'opportunités pour que les personnes de la réserve citoyenne puissent donner toute leur dynamisme. Et donc, vous avez raison, il faut...
Vous appelez les chefs d'établissement à davantage recourir
à la réserve citoyenne. Ce n'est pas le seul outil, mais effectivement, ça existe toujours. Il y a toujours des volontaires, et c'est tout à fait cohérent avec ce que je disais au début début de l'émission sur le fait que nous devons avoir un sursaut de l'unité, du collectif, et donc il est bon que les personnes de bonne volonté qui veulent aider l'éducation nationale puissent le faire à la demande des chefs d'établissement.
Question de Nathalie Saint-Cric.
Non, je voulais juste simplement savoir et revenir tout à l'heure, Manuel Valls a proposé à ce qu'il y ait un certain nombre d'initiatives, notamment dans la presse, pour republier les caricatures, pour les publier, puis pour marquer symboliquement le quoi. Est-ce que vous êtes favorable à ça ou là vous considérez que ça serait une provocation supplémentaire?
Jean-Michel Blanquer.
Je parle jamais de provocation quand on exerce sa liberté d'expression. Donc non, je ne pense pas ça du tout. Je pense je ne pense pas que c'est une provocation. Je pense que
donc c'est nécessaire de les republier encore une fois ou pas?
Je pense que chaque journal doit faire ce qu'il souhaite. Ni je veux les pousser, ni je veux les empêcher.
Vous connaissez l'argument, Monsieur le Ministre, l'argument si tous les journaux publier les caricatures de Mahomet, nous serions protégés par le nombre.
Oui,
ce serait ça.
Une sorte d'immunité collective.
J'entends cet argument et il me paraît assez intéressant. C'est pas mon rôle à moi, comme ministre de l'Éducation, de pousser à ce que ce soit le cas.
Mais quand vous avez entendu ça, vous ne vous êtes pas dit Emmanuel Valls exagère.
Non. C'est rare que je réagisse mal à ce qu'il peut dire.
Est-ce qu'on a franchi un cap, Jean-Michel Blanquer? La phrase est de Bernard Cazeneuve, comme si avec cet attentat, il y avait un avant et un après.
Il y a un avant et un après, c'est incontestable. L'assassinat aussi ignoble d'un professeur est un fait d'une gravité extrême et bien sûr qu'il y aura un avant et un après. À nous de définir cet après. Et il faut que ce soit un après, encore une fois, où premièrement nous ayons une claire conscience des enjeux, claire conscience partagée. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, parfois des différences de point de vue, mais il faut que ce soit vraiment d'une très grande sérénité, d'un grand respect, et pour le coup avec des objectifs totalement partagés qui sont la République et la démocratie. Et puis, deuxièmement, il faut évidemment de l'unité à l'intérieur de l'éducation nationale, de façon à ce qu'on sente cette force du monde adulte. C'est pour ça aussi que j'ai reçu les parents d'élèves hier, j'ai dialogué avec eux en visioconférence.
Les représentants des parents d'élèves.
Les représentants des parents d'élèves et des familles, parce que nous avons besoin aujourd'hui que les parents jouent le jeu de ce soutien de l'école, du discours que nous tous, le monde adulte, nous tenons à chaque enfant. C'est pour ça que tous ceux qui nous écoutent ont un rôle, ou nous regardent, ont un rôle en la matière. Parce que ce que nous disons aux enfants en ce moment, aux adolescents, alors qu'il y a beaucoup de courants relativistes qui parfois cherchent à influencer les enfants, que les réseaux sociaux parfois leur font passer des messages épouvantables, eh bien, nous avons un rôle pour transmettre les valeurs de la République.
Et d'ailleurs, comment parler aux élèves, les élèves de Samuel Paty, les élèves de son collège, mais au-delà, tous les élèves français à travers la France qui ont été choqués, émus, bouleversés par l'attentat de vendredi?
Bien, c'est un événement qui fait prendre conscience à chacun de l'importance des professeurs, plus que jamais. Ce que je dis d'abord à chaque élève, c'est manifester.
Que leur dire ?
Ouais, à chaque élève, ouais. Le soutien au professeur, respect du professeur. J'oserais le mot amour du professeur. C'est-à-dire le fait que la fonction professorale, elle est au cœur d'une société qui va bien. Si nous voulons aller bien tous collectivement, il faut être unis autour de nos enseignants et autour de tous ceux qui contribuent à l'éducation dans tous leurs métiers. Je pense par exemple aux directeurs d'école, aux directrices d'école, aux chefs d'établissement, aux infirmières, aux médecins scolaires, je pense aux CPE, bref, à tous ces métiers qui aujourd'hui, les psychologues scolaires qui ont un rôle tellement important dans une période comme la nôtre, tous ceux qui les aident aux enfants handicapés, bref, le monde éducatif. Au sens le plus profond du terme, qui même s'étend parfois au périscolaire, à tout ce qu'on fait faire, au travers du sport, etc. Tout ce monde qui est auprès des enfants et des adolescents, il a besoin de soutien, c'est ce que je m'efforce de faire en permanence, mais c'est aussi ce qui doit être manifesté au quotidien. Et donc, c'est mon message principal aux élèves, c'est soutenez vos professeurs.
Alors, on regarde
Karine Bécard, puis Philippe Bernard. Karine Bécard d'abord.
Alors, soutien, vous osez même ce mot amour, est-ce que, à l'inverse, du coup, vous redoutez qu'aujourd'hui, ces enseignants soient devenus des cibles dans la société française dans laquelle nous vivons?
Jean-Michel Blanquer.
Je pense que nous sommes tous des cibles du terrorisme. Et que là aussi, il y a une forme de logique comme celle qui a été énoncée tout à l'heure par Nathalie Saint-Cric, d'immunité collective à avoir. C'est-à-dire, pardon de vous le dire, vous êtes une cible parce que vous êtes journaliste, je suis une cible parce que je suis ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes des cibles. Le terrorisme nous prend tous pour cible. Donc, ne soyons
mais
tout simplement...
Mais depuis vendredi, il y a quand même quelque chose de très particulier pour tous les enseignants qui déjà souvent ne font pas un métier facile, de prendre conscience qu'ils courent maintenant un risque.
Encore une fois, nous, en tant que citoyens de démocratie défendant les valeurs de la démocratie, nous sommes des cibles et je ne veux pas que aujourd'hui on considère le professeur comme étant plus une cible que les autres, parce qu'on contribuerait à l'objectif que visent les terroristes. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est protéger les professeurs. Ça commence par des petites choses du quotidien, parce que regardons le continuum d'agressivité qui existe entre les incivilités contre un professeur jusqu'à l'acte terroriste. Vous savez, parfois, ça tient à la folie d'un homme.
C'est pas une question de nature.
Je pense que, en amont de cet acte terroriste, il y a des personnes, comme ce monsieur qui a été interpellé, qui, évidemment, excitent les esprits, et qui a évidemment une relation entre ce qu'on peut appeler un crime intellectuel et un crime pratique. Cet individu de, je crois, 18 ans, qui a commis ce crime abominable, la justice nous dira
comment
il en est arrivé là. Mais tout montre qu'il y a évidemment un écosystème autour de cela. Les responsables de ces écosystèmes sont monstrueux, parce qu'en plus, ils utilisent les autres pour commettre leurs crimes. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui sont intellectuellement complices de ce qui se passe, évidemment. Donc, le sursaut, il est aussi de cette nature. Il est dans la lucidité sur le fait que, bien sûr qu'il y a des gens qui manipulent en France et depuis l'étranger ces sujets-là, bien sûr.
Cet attentat pose aussi des questions politiques. La scène politique ne fait pas bloc, pour reprendre l'expression du président de la République, contrairement à d'autres moments, qui ont suivi des attentats ces dernières années. Qui manque à l'appel et est-ce que vous comprenez qu'il n'y ait pas unanimité ?
Alors, j'invite les responsables politiques à regarder les organisations syndicales de l'éducation nationale. Elles font pas souvent bloc avec le ministre ensemble. C'est assez connu, je crois.
Oui.
Elles ont fait bloc. Elles font bloc. Elles ont eu beaucoup de dignité. Et c'est cette dignité qui doit servir d'exemple aujourd'hui.
Nathalie Saint-Cricq.
Je voudrais simplement savoir comment va se passer la rentrée. Une dernière petite question à la rentrée après ces vacances de Toussaint. On a parlé d'une minute de silence. Est-ce que finalement ça suffit? Est-ce que c'est suffisamment symbolique ou ce n'est qu'une minute de silence? Et deuxièmement, est-ce que vous ne redoutez pas que dans le corps enseignant, même si pour l'instant il fait bloc avec vous, eh bien il y en a certains qui ne soient pas Charlie, comme il y a beaucoup de gens dans la population aussi qui se sont découverts et ou qui ont osé dire qu'eux ils ne l'étaient pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux? Ont-ils le droit de ne pas l'être?
Ah, je pense que si on ne croit pas aux valeurs de la République et au fait qu'il faut les défendre, il ne faut pas choisir ce métier-là. C'est très clair. Donc,
Mais les profs, c'est un reflet de la société. Il n'y a pas de raison qu'ils soient.
Non, je crois que vous êtes fonctionnaire. Vous servez l'État. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'obligations qui sont... vous signez quand vous arrivez. Et ceci en fait partie. Donc si vous sentez que vous avez un problème avec les valeurs de la République, vous avez le droit... d'être citoyen français, mais il faut vraiment se sentir très libre de ne pas appartenir à l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, depuis sa fondation, elle est le pilier de la République. Et donc, quand je parlais de hussards noirs du 21e siècle tout à l'heure, je dis bien que, en effet, quelle que soit la discipline que l'on enseigne, pas seulement l'histoire, géographie, l'éducation morale et civique, ou pas seulement professeur des écoles,
oui.
Quelle que soit la discipline qui est la sienne, on a évidemment dans son rôle de transmettre des savoirs et des valeurs. Et donc c'est évident que tout le monde doit être solidaire de ce qui est arrivé à Samuel Paty et tout le monde doit prendre exemple à la fois sur le courage et la cohérence qu'il y a à faire cela. On peut pas être professeur de l'école de la République et contre l'école de la République. Ça n'existe pas.
Karine Becker.
On imagine qu'il faut réaffirmer la laïcité. Est-ce que la réaffirmer dans la Constitution, c'est important? Je fais référence en fait au Sénat qui va présenter demain une proposition de loi allant dans ce sens-là. Son article premier dit « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune ». Est-ce que vous souscrivez à ça? Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce qu'il faut soutenir les sénateurs?
Alors, Jean-Michel Blanquer.
La laïcité est déjà... très consacrée constitutionnellement. Elle est dans le préambule de 1946, elle est évidemment dans la loi de 1905 qui elle-même a désormais valeur constitutionnelle.
Là, donc, cet article-là est plus clair encore quand même.
C'est-à-dire que c'est une des explicitations possibles de la laïcité. Alors, je ne sais pas s'il faut faire de la surenchère constitutionnelle, ça se regarde, si je puis dire, mais en tout cas,
la laïcité... dans le bloc de constitutionnalité, ça suffit d'après vous?
Elle est, oui, aujourd'hui, la laïcité est un principe constitutionnel d'une solidité juridique.
Donc c'est une initiative
juridique
inutile
totale.
De la part des sénateurs?
Honnêtement, j'ai pas étudié leur proposition là, j'ai peur que ce soit redondant, mais ça se regarde.
J'entendais hier matin Kamel Daoud sur France Culture parlait de la manière dont l'islam devait être débattu en France. Il disait, l'islam n'appartient à personne, il faut l'assumer comme un fait français. Est-ce que vous ne pensez pas que les religions, en général, sont un angle mort de l'enseignement, de l'éducation nationale en France? Il y a d'autres pays, après de nous, où on parle des religions des autres, on apprend à les respecter, on apprend les fêtes qui sont célébrées par les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à combler de ce côté-là?
Jean-Michel Blanquer.
C'est évidemment une excellente question, parce qu'il faut toujours préciser que lorsqu'on parle de laïcité, on ne parle pas du fait que l'État serait un État athée, voulant poursuivre les religions ou même les empêcher d'une quelconque manière. C'est tout l'inverse.
Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas.
La laïcité, encore une fois, il faut toujours le redire, c'est la liberté, et donc la liberté de croire ou de ne pas croire. Et cette liberté doit permettre aussi de connaître les religions pour tous ceux qui le souhaitent. Et ça fait partie évidemment de tout ce qui va avec l'humanité. Donc de ce point de vue-là, alors on peut pas dire qu'on ne les enseigne pas complètement, hein, dans les programmes d'histoire et géographie, bien entendu qu'il est question d'histoire du judaïsme, du christianisme, de l'islam, il existe déjà des choses, mais il faut sans doute évoluer sur ces questions. Il y a un document très bien fait du Conseil des sages de la laïcité sur l'approche laïque du fait religieux. Qui probablement inspirera des décisions dans le futur. Vous savez que c'est
comme
un vieux sujet.
Comme l'avait déjà proposé Régis Debray, il y a déjà de nombreuses années, enseigner le fait religieux à l'école et non pas la religion.
Tout à fait. Alors, il parlait d'enseignement laïque du fait religieux. Vous avez dit que j'ai dit approche laïque du fait religieux. Chaque mot a son importance. Mais il est évident que nous devons encore évoluer. C'est un sujet délicat. Mais c'est un
mais
sujet...
Mais pourquoi c'est délicat? On sent effectivement, vous en parlez avec...
Parce que c'est... regardez
c'est important,
à quel point,
effectivement, d'apprendre les religions. C'est...
Oui, mais je vous donne raison.
Les religions des autres, n'est-ce pas?
Bien sûr, vous savez, de façon générale,
les non-religions des autres.
Et les non-religions des autres. Ouvrir l'esprit de nos enfants, de façon générale, ça peut être considéré comme un objectif fondamental.
Mais les professeurs sont réticents à aborder ces questions-là.
Alors, on a en effet, en matière de formation, vous savez, c'est aussi un peu le sens de tout ce que je dis depuis le début de l'émission, c'est il faut désinhiber un petit peu et donc vaincre la peur aussi. C'est-à-dire que parfois il y a des formes de maladresse parce que à force de vouloir marcher sur des œufs en quelque sorte, on devient plus maladroit que si on se sent à l'aise. Donc de ce point de vue-là, l'institution doit être parfaitement claire. J'essaye de l'être. Peut-être devons-nous l'être encore davantage sur le cadre des programmes, ça nous sommes très clairs. La formation, nous pouvons l'être davantage, et les outils pédagogiques. Et
donc, l'éducation nationale peut avancer pour faire avancer le fait que l'islam est une religion française.
Je pense pas que ce soit l'angle par lequel il faut aborder les choses, mais par contre, qu'il y ait une connaissance du judaïsme, du christianisme, de l'islam, des autres religions comme le bouddhisme, et de façon générale aussi de l'histoire de l'athéisme, d'une certaine façon, de la libre-pensée. Tous ces sujets-là, bien sûr, doivent faire partie du bagage culturel d'un élève. On ne part pas de zéro, je le redis, hein, les programmes d'histoire-géographie font droit à cela, bien sûr, mais il y a certainement des progrès à faire.
Vous êtes également le ministre de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, disait le président de la République mercredi soir. Est-ce que vous diriez la même chose? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Paul Nizan disait déjà quelque chose comme ça à une autre époque.
Dites jamais que 20 ans est le plus bel âge de la vie.
Et donc, il ne voulait pas qu'on laisse dire que 20 ans puisse être le plus bel âge de la vie. Moi, je pense qu'évidemment, 20 ans, c'est quand même un très bel âge. Et que c'est vrai qu'en tant que ministre de la Jeunesse, je suis très attentif à ça. C'est-à-dire à ce qui se passe pour cette génération-là. Et cette génération, nous avons un premier devoir vis-à-vis d'elle. Nous en avons plusieurs. Mais le premier des devoirs, c'est déjà d'avoir une projection positive vers l'avenir. Trop souvent, nos discours sont autoréalisateurs. À force d'être pessimistes, eh bien évidemment, nous créons un monde gris. Et donc, il ne s'agit pas simplement de mettre des lunettes roses pour parler du futur, mais il s'agit quand même de dresser des perspectives d'avenir. C'est vrai en matière d'environnement, c'est vrai en matière de valeurs de la République.
Mais comment parler de l'avenir quand on est dans une incertitude, dans une période d'incertitude aussi épaisse qu'aujourd'hui avec la crise Covid?
En ayant deux messages fondamentaux, qui sont les messages du président de la République. Premièrement, on peut maîtriser sa vie par l'éducation et la formation et le travail. Et donc c'est fondamental de créer de plus en plus de liberté en soi parce qu'on se forme et parce qu'on va travailler. Tout ça crée du bonheur et crée de la perspective future. Premier message fondamental, c'est le message de l'école. Deuxième message fondamental, on est heureux quand on est plusieurs. Et l'homme est un animal social, et on a besoin des autres. Et donc l'école aussi apprend cela, c'est-à-dire
alors,
à vivre à plusieurs.
Comment faire quand on ne peut pas se réunir à plus de six et que des règles sanitaires extrêmement strictes ont été prises ?
Mais ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, il peut arriver des catastrophes naturelles, des choses de tous ordres, on doit toujours avoir le sens du collectif, et à la limite, plus il y a des problèmes de ce genre, plus on doit être dans le collectif. Donc nous devons avoir de la cohésion, de l'esprit d'équipe. Et là aussi, nous avons des progrès à faire dans l'éducation pour apprendre à travailler en équipe davantage. Et donc, cette émancipation individuelle et cette maîtrise du destin personnel et du destin collectif, je crois que c'est le message positif pour le futur et qu'on doit, toutes nos politiques publiques doivent être inspirées par cela.
Mais le ministre de la Jeunesse a-t-il un discours à tenir aux jeunes, justement, aux plus jeunes qui sont régulièrement pointés du doigt pour leur relâchement, pour leur absence de civisme, parce qu'ils ne respectent pas les gestes barrières, la distance sociale. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, Jean-Michel Blanquer.
Mais vous notez que vous ne trouverez aucune phrase de moi de ce type. Lorsque j'ai beaucoup plaidé pour le déconfinement, j'étais heureux que des jeunes puissent prendre des vacances. On a fait les vacances apprenantes, le plein air, tous ces sujets-là sont fondamentaux et je n'ai aucune phrase de stigmatisation de la jeunesse, bien au contraire.
Non, mais vous pouvez pas nier un certain nombre de clusters dans les écoles et les établissements, dans les classes. Donc, peut-être qu'il y a du relâchement. Il a pas tort, Libadou.
Qu'il y ait du relâchement, mais vous savez, il y en a eu de la part de toutes les générations, à tous les étages. Donc, et au contraire, moi, je veux souligner l'incroyable civisme et des adultes qui travaillent à l'éducation nationale, les professeurs et les autres, et celui des élèves. Nous avons très peu eu de problèmes de personnes qui ne veulent pas respecter les règles. Donc, au contraire, il y a eu quelque chose à souligner et à saluer.
Nathalie Saint-Cricain.
Est-ce que vous avez des indicateurs d'une forme de risque, de détresse psychologique chez un certain nombre d'étudiants ? Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont isolés, ceux qui vivent dans quelques mètres carrés, qui ne peuvent plus aller à la cafétéria, donc que ce soit l'alpha et l'oméga de la vie, ni dans des bars, et qui finalement risqueraient d'être dans une grande détresse psychologique. Et que pouvez-vous faire face à ça ?
Oui, alors on sait que ce phénomène existe. Il relève notamment de l'âge de l'université, et donc c'est Frédéric Vidal qui travaille beaucoup à cela,
en lien
avec l'ensemble des institutions.
Et qui n'ont plus de petits boulots pour arrondir leur fin de mois.
Oui, bien sûr. Il peut y avoir un désarroi de la jeunesse, que ce soit la jeunesse étudiante ou la jeunesse qui travaille.
Qui travaille. Oui.
Et donc c'est pour ça qu'on a pris le plan jeune. Hein, c'est comme 6,5 milliards d'euros qu'on a mis en cette rentrée pour notamment l'apprentissage, pour l'aide sociale aux étudiants, pour aider à ce qu'il y ait des emplois pour les jeunes et de l'insertion professionnelle. C'est les 100 000 services civiques qui sont sous ma responsabilité, en plus des 140 000 que nous avions déjà, pour justement qu'il y ait un sens dans la vie des jeunes qui s'engagent pour des causes d'intérêt général. Ils sont en train de faire des choses magnifiques à ce titre. Donc nous prenons des mesures face à un phénomène qui est mondial. Hein, d'ailleurs, ce que vous venez de décrire, malheureusement, on le constate dans tous les pays qui ont à souffrir, c'est-à-dire tous les pays du monde qui souffrent aujourd'hui des circonstances sanitaire particulière.
Et de la crise Covid.
Encore une fois, montrons-nous à nous-mêmes non seulement notre résilience, ce mot n'est pas suffisant, mais notre capacité de sursaut sur ce sujet aussi. C'est-à-dire le fait que, bien sûr, nous vaincrons le virus. Il y aura un après-virus, heureusement. Et nous goûterons encore plus les jours heureux quand cela reviendra. Et nous devons dessiner cet avenir et préparer cet avenir en ce moment même et nous montrer à nous-mêmes quelque chose. Nous ne sommes pas juste des individualistes matérialistes regardant notre nombril. Nous sommes un pays, la France, avec une histoire magnifique, se projetant dans l'avenir et fier de ses valeurs républicaines. C'est ça qu'on doit transmettre.
Un mot d'ailleurs, puisque toujours la question de la jeunesse reste posée, il y a de nombreux sondages, il y a des études qui montrent que une grande partie des Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam, par exemple, au-dessus de la République, alors qu'ils sont 25% seulement parmi ceux qui ont plus de 35 ans. Comment les faire adhérer, ces jeunes-là, aux valeurs de la République, Jean-Michel Blanquer ?
En faisant une distinction cardinale entre la vie intime et ce qui se passe dans la sphère sociale et publique. Autrement dit, que dans leur tête, ils accordent une place au sommet à la divinité, c'est leur droit.
Et c'est la liberté de conscience.
C'est la liberté de conscience que leur permet la République. En revanche, dans la vie sociale, personne, aucun citoyen n'a un droit supérieur à un autre du fait de sa religion, d'imposer quoi que ce soit. C'est assez simple, ça préserve la liberté de chacun, et je crois que ça préserve même la conscience de ceux qui pensent ainsi, parce que ils ont bien le droit de penser cela pour leur vie métaphysique personnelle, et pourquoi pas. C'est même à ce titre-là et uniquement à ce titre-là, totalement respectable. Oui. En revanche, on ne doit pas en tirer des conséquences sur le fait de vouloir imposer à autrui un mode de vie et faire pression sur autrui. Et par exemple, qu'un homme fasse pression sur une femme sur sa façon de s'habiller, de vivre en général.
Ça, c'est inacceptable et insupportable. Dernière question, il nous reste une minute. Vous êtes également le ministre des Sports, c'est dire le nombre de dossiers que vous avez à traiter, Jean-Michel Blanquer.
Nous sommes plusieurs, hein, c'est l'esprit d'équipe.
Compétition sportive et tout simplement même des pratiques sportives en France à un moment où, avec les mesures prises par le gouvernement, ça devient très compliqué, tout simplement, de faire du sport.
Alors, c'est un sujet qui requerrait une heure et qui est fondamental. Hein.
Nous avons pris, 30 secondes.
Avec Roxana Maracineanu, on a pris des mesures pour la rentrée. C'est l'opération Envie de sport en particulier. On a incité les élèves à s'inscrire, par exemple, dans les associations sportives. Et puis, on essaye de soutenir au maximum le milieu sportif qui souffre énormément des règles du jeu. Donc, on travaille à chaque fois au cas par cas sur les règles sanitaires applicables. Et puis, évidemment, on travaillera à la réouverture possible des stades, des lieux où on peut assister aux spectacles sportifs. Simplement, on est obligé.
Il n'y a pas de calendrier.
Non, parce qu'on s'adapte évidemment à la situation sanitaire, mais nous sommes d'un très grand volontarisme. On a un projet sportif extrêmement ambitieux avec Roxana et ça va se voir, vous allez le voir au cours des mois et des années qui viennent.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité. Question politique se termine. Merci à tous les trois. À suivre sur France Inter et après le journal, une émission spéciale consacrée à la République et à son école avec l'essayiste Caroline Fourest et l'historien Patrick Boucheron. Rendez-vous avec eux dès 13h20.